Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, et c'est Jeudi Noir qui commence. Donc malgré le Covid, malgré tout, quoi, on essaie de résister, vaguement. Jean-Mathias, tu résistes ?
Je résiste.
Il résiste, donc tout va bien, José résiste aussi, là, il a l'air de bien résister, il ferme la fenêtre parce qu'il ne veut plus nous parler. Et aujourd'hui, on va vous présenter un truc, un nouveau numéro de Réfraction. Jean-Mathias est en train de se faire la compile Réfraction. Donc, c'est une revue. Et c'est une revue, là, consacrée donc, à la collapsologie. On avait déjà fait une émission sur la collapsologie et le bouquin de Servigne et de Stevens. Et Jean-Mathias nous a présenté le numéro de Réfraction comme un numéro un peu anti-collapso, du moins de débat avec la collapsologie. Donc j'ai déjà vu passer 2-3 trucs contre la collapsologie de gauche un peu, disant que c'était une espèce de fatalisme politique qui disait que finalement il n'y avait rien à faire et qu'on ne pouvait rien faire et que par conséquent il fallait surtout pas se bouger. Ce qui pourrait coller avec finalement l'agenda politique de certaines grandes entreprises qui collectionnent les dividendes. Je trouve que c'est une argumentation peut-être un peu faible. Il y a peut-être d'autres argumentaires qui sont possibles, mais après, la question que je me pose, quand tu me dis anti-collapso, c'est quoi ? C'est sur une base, par exemple, c'est sur une base scientifique, un peu factuelle, ou c'est sur une base plus idéologique ? Parce qu'en fait, dans un cas comme dans l'autre, il me semble, enfin, on confond un peu les enjeux peut-être. Enfin, c'est compliqué de ne pas confondre les enjeux. C'est-à-dire, soit les collapsologues ont une vision assez juste des possibilités qui se présentent dans le futur, liées à l'état de la technique et de l'industrie et de la nature dans notre monde. C'est-à-dire que ça pourrait effectivement se casser la gueule. Soit ils ont tort. Ensuite, qu'est-ce qu'on en fait en termes de discussion politique, dans un cas comme dans l'autre? Donc, qu'est-ce qu'on peut leur objecter?
Bah, alors oui, c'est des questions, évidemment, c'est des questions que tu as raison de soulever là. Peut-être resituer un petit peu quand même la revue et puis l'intérêt du sujet collapsologie pour une revue comme Réfraction. Réfraction est une revue de recherche et d'expression anarchiste, puisque c'est le sous-titre de la revue. Donc c'est pas n'importe quelle revue. C'est une revue donc voilà de camarades libertaires assumés, hein, je dirais, voilà, anarchistes assumé. Et le choix de la, donc ces derniers numéros là en date, hein, celui du printemps dernier, et le choix de alors le titre de la revue, c'est La vie de tempête, la fin des beaux jours, point d'interrogation. Et donc c'est consacré à la collapsologie, mais de manière plus générale, si tu veux, c'est évidemment la collapsologie qui est dans le viseur, mais ce qui est visé, c'est de manière plus générale, c'est toutes les formes de discours effondriste, comme le disent la plupart des auteurs, là, catastrophiste ou plus précisément effondriste. Et l'approche qui est ici privilégiée, c'est une approche politique, hein, de la collapsologie, c'est-à-dire une espèce d'évaluation politique de la collapsologie. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le bilan, il est assez sévère. Alors, ce qui est intéressant, et je me permets de le rappeler quand même, c'est que tu as cité Servigne tout à l'heure, Pablo Servigne, qui est donc maintenant le nouveau chef de file de la collapsologie. Discipline entre guillemets qu'il a lui-même baptisé, hein, si tu veux, c'est-à-dire la collapsologie qui est censée être une discipline, une approche interdisciplinaire de toutes les catastrophes environnementales, écologiques à venir, avec une perspective d'effondrement certaine. Qui en fait appellerait du coup des approches interdisciplinaires, donc à la fois du côté des sciences de la nature, du côté de l'écologie, de la géologie, mais aussi du côté des sciences humaines. Enfin, c'est un programme extrêmement ambitieux puisqu'il s'agit de refonder finalement l'ensemble des sciences autour de cette perspective de catastrophe à peu près certaine et d'effondrement des sociétés humaines telles qu'on les connaît et de leur milieu. Donc ça, c'est le projet académique, on pourrait dire, de Servigne. Mais Servigne, il vient pas de nulle part, et c'est pas un détail qu'effectivement dans Réfraction il y a ce numéro là. Pablo Servigne est un ancien militant anarchiste. belge, un ancien éditeur de Kropotkin notamment, qui a préfacé les textes de Kropotkin sur l'entraide, et qui avait coordonné un numéro de Réfraction il y a plusieurs années, qui était consacré justement voilà, aux questions et d'écologie politique. Et depuis, effectivement, Pablo Servigne, il a mené sa barque, il a vendu beaucoup de livres et il a réussi à se tailler des rayons entiers dans les grandes librairies grand public avec voilà, une nouvelle étiquette et quelques un produit qui se vend très très bien.
Et il vit reculé à la montagne. En essayant de passer plus ou moins dans une espèce de régime de semi-autonomie. Et il a abandonné, d'après ce que j'avais entendu, ce qu'il disait dans des interviews. De manière, il avait un peu renoncé à une perspective politique et il était presque dans une perspective quasi mystique. Quoi.
Oui, bien sûr, mais c'est ça. C'est mystique, ce qui est compliqué, c'est que c'est une perspective qui a des dimensions mystiques, anti-rationalistes, anti-scientifiques, anti-politiques d'une certaine manière, et c'est ça que le numéro va rappeler. Et simplement pour information quand même, Pablo Servigne, il a une interview dans le numéro 1. Hein. De Réfraction, c'est-à-dire qu'en fait il maintient ce lien-là. Alors c'est une interview qui est, c'est un quasi-droit de réponse, je dirais, parce que c'est pas vraiment une interview, mais c'est un quasi-droit de réponse parce qu'il est maintenant très 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 attaqué. Mais alors l'intérêt du numéro, moi je trouve, c'est qu'en fait il aborde de front, je dirais, une séduction possible dans le milieu anarchiste des discours collapsologues et de l'approche collapsologique. Alors, si on peut parler d'une approche globale comme ça, les caractéristiques, je dirais, il y a une perspective d'effondrement quasi certain, avec une critique très générale de, je dirais, l'industrialisme au sens large, du capitalisme, mais vite fait, du capitalisme défini de manière extrêmement abstraite, extrêmement générale. Donc il y a un diagnostic qui est assez largement partageable, je dirais, par des critiques écologistes radicales du capitalisme. Donc sur le diagnostic, pas de problème. Après, en termes de perspective, on est sur des choses qui sont extrêmement consensuelles et extrêmement vagues, et consensuelles parce que vagues, et en réalité extrêmement dépolitisantes, puisque finalement, on n'est pas très très loin du point de vue des conséquences pratiques, d'une espèce d'appel à une sorte de conversion intérieure, individuelle, très individuel, confusionniste. Ça, je n'avais pas relevé la chose, mais effectivement, dans les derniers bouquins de Servigne, on est sur une espèce de confusion savamment orchestrée entre des analyses effondristes anticapitalistes, mais aussi des analyses effondristes d'extrême droite, où effectivement sont mis sur un pied d'égalité les projets de ZAD type Notre-Dame-des-Landes et des projets de base autonome de défense qui sont chers aux survivalistes d'extrême droite. Et il y a une espèce de confusion qui est savamment orchestrée là-dessus. Alors ça, c'est pour, je dirais, les aspects les plus radicaux de certains engagements ou de certains appels de Servigne. Mais d'une certaine manière, l'ensemble du dispositif la collapsologique apparaît sous un nouveau jour, là, je trouve, vraiment, avec ce dernier numéro, parce qu'en fait, il est remis en perspective sur deux grands axes, et moi que je trouve très convaincant, parce qu'ils sont formulés, là, pour le coup, tels quels. C'est, en fait, la collapsologie est une manière de court-circuiter toutes les mises en perspective historiques de l'évolution des sociétés industrielles et de la compréhension, du coup, des forces à l'œuvre dans les sociétés industrielles, parce qu'on a, du coup, cette analyse historique, elle est évincée au profit d'une espèce de fascination pour un effondrement à venir qui, du coup, t'écrase toute perspective et toute analyse réellement historienne de ça. Donc ça, c'est le premier point, si tu veux, l'espèce de mise à l'écart de toute approche historique sérieuse des évolutions en cours. Et l'autre approche, et l'autre critique, évidemment, alors celle-là, elle est déjà en filigrane dans ce que je viens de dire, c'est l'approche proprement dépolitisante de ce produit collapsologique, j'ai envie de l'appeler un peu comme ça, ou du produit effondriste, parce qu'effectivement, en définitive, le cadre, si tu veux, ou les catégories qui sont mises sur le marché et qui sont mises dans la discussion, sont des catégories qui ne désignent pas, en fait, d'antagonisme, qui ne désignent pas de responsable et qui ne mobilisent pas non plus, si tu veux, de groupes ou de forces claires en faveur, si tu veux, d'une mobilisation collective quelconque. Et donc c'est en ce sens-là qu'effectivement c'est un dispositif qui est anti-politique d'une certaine manière, et qui finalement a pour conséquence, ou risque d'avoir pour unique conséquence, le fait d'éparpiller des gens effectivement dans des stratégies un peu individuelles, sans que rien ne change sur le fond des logiques en cours, de destruction de la nature et de destruction de l'humain et de son milieu.
En cours et pas à venir.
Tout à fait. Il y a cette espèce. Alors ça aussi, c'est évidemment, c'est en ça que c'est déshistoricisant, si tu veux. C'est-à-dire que on te met sous le nez cette espèce de perspective, dans une espèce de temps un peu étrange, parce que le temps de la catastrophe ou le temps de l'effondrement, en fait, il est à la fois très proche et puis en même temps nulle part, si tu veux. Et en même temps, c'est un truc qui t'écrase finalement toute mise en perspective sur la durée, notamment. C'est aussi une manière de passer à la trappe toutes les analyses qui sont faites depuis maintenant plus de 50 ans sur, si tu veux, les risques et les destructions massives, tu vois, du vivant à cause de la société industrielle. Et dans le cadre effectivement d'une critique anticapitaliste, ça n'a rien de nouveau. C'est un des mérites aussi de la revue, je vais en parler tout à l'heure, de remettre ça aussi en perspective. Donc ça évidemment disparaît, parce que tu as une espèce de fascination pour l'effondrement ultime, pour la catastrophe finale, si tu veux. Et donc évidemment ça t'écrase un peu la réflexion là-dessus, et le seul résultat finalement qui risque de se produire dans cette affaire-là, c'est de décrocher un certain nombre de personnes, si tu veux, des luttes collectives, et du coup d'affaiblir tout simplement l'écologie politique, pour dire les choses assez rapidement, écologie politique qui en fait qui date pas de la collapsologie, dont les diagnostics sont posés déjà depuis pas mal de temps. Alors il s'agit pas de dire que si tu veux que t'as rien de nouveau sous le soleil et qu'au fond tout a déjà été dit, c'est évidemment pas ça la question, mais
qu'est-ce qu'on mobilise
et
quel mot d'ordre
et finalement. Quel positionnement tu induis dans ton par ton analyse et par le diagnostic que tu poses.
C'est-à-dire que moi, dans ce que tu me racontes, là, c'est que si tu ne poses pas de responsable ou si tu ne poses pas une analyse des causes humaines, politiques et économiques qui produisent une catastrophe écologique, si d'autre part, donc tu n'as pas d'ennemis en fait.
C'est ça.
D'autre part, tu ne mobilises aucun groupe particulier pour réagir, d'une certaine manière, c'est comme si tu dis à chaque personne, faites face à votre destin. Ouais. Et donc, à partir de là, évidemment, c'est mécaniquement une réponse individuelle qui est appelée.
Oui, tout à fait.
Sauf que, justement...
Mais c'est que l'histoire, elle continue.
Oui.
L'histoire, elle continue. Les destructions, elles continuent.
Les industriels continuent de leur propagande pour nous faire croire que tout va bien, Madame la Marquise, etc., etc.
Et donc, c'est mon hypothèse, qui est en fait une hypothèse plutôt bienveillante, si je la compare à ce qui est développé dans la revue, où là, pour le coup, on a d'autres diagnostics et d'autres perspectives qui sont nettement plus critiques. Alors j'en cite deux. Il y a deux formules qui en même temps sont assez efficaces, je trouve. Il y en a une qu'on trouve dans un des articles. En fait, c'est un article de Pierre Thiessé, là, qui est un des fondateurs de la décroissance. Très bonne interview. Et lui, en fait, il voit en fait dans la collapsologie la mise en place d'une espèce de pensée, ce qu'il appelle une cybernétique du chaos. J'aime assez la formule, c'est-à-dire en fait une espèce d'analyse des systèmes, voués à une espèce d'effondrement général, mais sans remise en question, si tu veux, des rapports de domination ou des rapports hiérarchiques ou du type d'organisation sociale, si tu veux, qui va avec une politique émancipatrice. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un peu effectivement technicien, si tu veux, systémique dans l'approche qui est proposée par des gens comme Servigne, et qui d'une certaine manière fournit une espèce d'appareil à d'éventuels dirigeants à venir, tu vois, d'une société en crise et confrontée à une espèce de chaos environnemental. Et tu peux effectivement, c'est une vision peut-être un peu pessimiste, mais pas forcément absurde, tu peux effectivement voir la collapsologie comme la future idéologie professionnelle des petits bureaucrates du chaos à venir. Et c'est pas absurde, effectivement. Donc dans ce cas-là, c'est pas simplement une espèce de conversion intérieure de la part des lecteurs de Pablo Servigne, mais il y a que ça. Une autre formule que j'ai vue aussi, c'est chez Bertrand Louard, un texte, Louard qui est un libertaire de qui vit à Longomaille, notamment à la, dans la communauté de Longomaille, et qui lui, alors oui, il faut que je retrouve la formule, mais c'était intéressant, c'était une espèce de, il disait que finalement le seul programme politique de la collapsologie, c'était une espèce d'appel à une révolution horizontale de la, bureau, de la bureaucratie. Une espèce de, et c'est la même idée, si vous voulez, c'est la même idée, c'est l'idée que l'idée que finalement c'est, on a là tout un appareil et des catégories qui finalement soit t'amènent, tu vois, à partir dans ton chalet en montagne, voilà, pour parler aux arbres et aux reptiles. Je ne caricature pas, c'est-à-dire qu'effectivement il y a une espèce de d'appel à l'animisme, si tu veux, ou à renouer, tu vois, affectivement et par l'esprit, voilà, avec le vivant, donc les arbres, les végétaux, les animaux. Donc soit
c'est
ça,
c'est très bien d'en parler, on est sûr,
oui, c'est très bien, c'est très bien, voilà. Donc c'est soit ça, soit effectivement un petit appareil, une petite idéologie professionnelle pour des cadres du chaos qui seront en position de pouvoir et qui l'exerceront avec l'appareil cybernétique qui va bien. Alors, on est dans la prospective, là, si vous voulez, mais bon, c'est un peu une entrée en matière pour un peu sévère, mais je pense qu'à mon avis, elle est assez juste, en fait, cette analyse-là, sur la collapsologie d'un point de vue anarchiste. Et encore une fois, j'insiste, je pense que les anarchistes ont un boulot spécial à faire là-dessus, parce qu'en fait, ça vient de chez nous, cette affaire-là. Ça vient de chez nous, ça utilise un certain nombre de ressorts, de références et de trucs, je dirais, qui sont propres à la pensée anarchiste. Et je pense qu'effectivement c'est intéressant qu'on ait des gens qui se mobilisent et qui fassent un petit peu le travail d'analyse critique de ce mouvement-là ou du produit collapsologue dans ce numéro de Réfraction, la numéro 44, le dernier, celui-là, de printemps 2020.
Ben, on va faire une pause après cette présentation un peu générale et José nous a encore sélectionné des morceaux qui sont d'une pertinence absolue. Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Et c'est Jeudi Noir donc, qui commence pour sa deuxième partie. Et on vous présente un numéro de Réfraction, donc le numéro 44, Recherche et Expression Anarchiste, c'est le sous-titre de la revue, avec Avis de Tempête, la fin des beaux jours. Donc voilà, on essaie de vous dire en première partie de l'émission un petit peu de Jean-Mathias essayer de présenter la critique générale, d'une certaine manière, d'un point de vue politique, de la collapsologie, en soulignant que c'était aussi un courant qui prenait sa source chez les anarchistes, chez nous, et qui faisait appel, finalement, aussi touchait pas mal de cordes sensibles chez l'anarchisme. Il y a deux semaines, on vous présentait Graeber. Graeber, souvent, va valoriser des sociétés pré-industrielles, par exemple, et chez les anarchistes, ça peut être tentant de valoriser des sociétés pré-industrielles, parce que, justement, elles sont sans État, très très fréquemment. Enfin, pas toutes pré-industrielles, non, il faudrait préciser, mais bon, peu importe. On va, voilà, mettons des sociétés pré-industrielles sans État.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la donc, critique de l'industrialisme comme système autoritaire, comme un système autoritaire, pas simplement du capitalisme, mais de l'industrialisme comme système autoritaire, c'est une critique qui est propre aux anarchs. Oui. C'est qu'on ne la trouve pas dans les autres traditions du mouvement ouvrier.
C'est ça. Et c'est clair que la perspective d'un effondrement de la société capitaliste industrielle d'un point de vue anarchiste peut être tentante. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on peut dire ah ouais, mais que tout se casse la gueule, on va réorganiser nos communes libres. Sauf que il faudrait les organiser juste à côté des masculinistes, survivalistes, armés jusqu'aux dents et qui seront vachement plus forts que nous pour imposer leurs idées. mais bon, ça, c'est si toutes ces choses affreuses se produisent. La chose affreuse, je sais pas, la chute de l'État industriel capitaliste, je sais pas si c'est une chose affreuse personnellement, mais justement, voilà.
Il est jamais question de chute de l'État dans l'analyse collapsologique. Alors, il est question d'effondrement de l'État parce qu'effectivement, les ressources sont plus là, les courants de transmission, les réseaux de transmission sont pas là, etc. Bon, mais c'est un effondrement qui en même temps est relativement là, c'est le stade ultime, je dirais. Et en fait, tu as toutes les étapes d'avant où en fait, il est pas du tout sûr. Alors, ça, c'est un point sur lequel la plupart des intervenants, des contributeurs là, de la revue sont d'accord. C'est l'idée qu'il n'est pas du tout sûr, si tu veux, que les étapes de cet effondrement ne mènent pas, au contraire, à des renforcements des contrôles étatiques, à des renforcements de la coercition, à des renversements des relations autoritaires. C'est même d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le plus probable, si tu veux.
C'est des thèses qu'on trouve déjà chez l'Encyclopédie des Nuisances.
Absolument.
Depuis un certain temps. C'est-à-dire qu'il voit l'écologie et la menace de l'effondrement comme aussi l'occasion pour l'État d'affirmer son emprise autoritaire sur la société.
Et c'est un peu, et je trouve que c'est une critique qui est assez juste, et en fait les seules choses, si tu veux, qui peuvent te prémunir contre ça, mais qui peuvent te donner des outils intellectuels contre ce type d'appropriation par l'État, si tu veux, de nouveaux types de contraintes, tu vois, liées à l'environnement, à la crise environnementale, et qui du coup justifieront l'autorité de l'État, la violence de l'État et la coercition de l'État. Les seuls outils qui peuvent te prémunir un petit peu de ça, c'est une mise en perspective sur le temps long, c'est un lien effectivement entre les effets, si tu veux, et les ces phénomènes-là, et justement des choix politiques et des choix en termes de politique industrielle, de développement, de croissance, etc. Donc ça, effectivement, ça suppose un regard d'historien, et ça suppose effectivement aussi d'avoir effectivement de nommer les responsables et de construire des collectifs et des forces politiques pour s'y opposer. Parce que si tu veux, il s'agit pas simplement d'avoir un diagnostic qui plane comme ça du point de vue de Cyrus sur l'effondrement, des milieux ou l'effondrement, Et ça, c'est vrai que la perspective de l'effondrement de l'État chez les collapsologues, elle est pour le coup extrêmement lointaine, extrêmement abstraite en réalité. Alors évidemment, c'est le stade ultime, donc effectivement ils pourront te dire, bah oui mais si on y pense, en fait c'est contenu dans le truc, d'accord, mais sauf qu'en fait on sait pas, on n'a pas la date, en fait personne ne peut la voir en réalité, et en fait d'ici là effectivement quels sont les effets directs et concrets de cette perspective là, hein, Il s'agit pas de simplement dire l'État va s'effondrer lui-même, parce que si tu veux, avant de s'effondrer
il va faire des trucs.
Et il va faire des trucs parce qu'il va pas s'effondrer tout seul, il va pas se laisser dépérir comme ça, on peut lui faire confiance là-dessus. Et là-dessus, t'as que dalle, par exemple. Qui va s'opposer à ça? Avec quelle catégorie? Sur quelle perspective? Sur quel mode d'organisation? T'as rien là-dedans. Rien du tout, si tu veux. C'est vraiment, c'est typiquement, si tu veux, ça. Et t'as par exemple même d'autres choses. Alors moi, pour en avoir discuté un peu autour de moi, t'as aussi une espèce Alors, quand on parle de collapsologie, le problème, c'est juste que ça regroupe des tas de choses, des tas de branches, effectivement, des tas de courants qui ne sont pas tous d'accord entre eux, qui ne disent pas tous exactement la même chose. Tu as des historiens qui s'inscrivent un peu dans le courant collapsologue et qui sont tout à fait sur autre chose que ce que dit Sterling. Je pense à des gens comme Jean-Baptiste Fressos, par exemple, dans son bouquin L'événement anthropocène, là, qu'on avait commenté ici aussi d'ailleurs. C'est une approche d'historien, effectivement, aussi. Il me semble qu'on avait vu sous ça. On l'avait justement par rapport à Sterling, je crois qu'on l'avait mis en contrepoint. En tout cas, c'est, je conseille l'événement Anthropocène, très bonne analyse d'historien pour le coup, tu vois, qui te nomme des responsables. C'est lui un des premiers à avoir formulé les questions de capitalocène, notamment. Donc déjà, effectivement, tu progresses, parce que capitalocène, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe où non plus, c'est pas à n'importe quel moment. Tu situes les responsables dans l'histoire, tu situes des virages, tu périodises. Hein, en l'occurrence, lui, effectivement, les responsables, pour lui, ils sont historiquement, et c'est très clair, en fait, c'est les anglo-saxons, les Anglais et les États-Unis dans la mise en place du capitalisme et de la société industrielle, voilà, sur l'exploitation des hydrocarbures et du charbon, voilà. C'est eux qui, effectivement, qu'ont flingué l'atmosphère et qu'ont commencé à flinguer les milieux. Et en fait, la proportion, si tu veux, des effets de leurs décisions est telle dans la situation dans laquelle on est qu'en fait, en termes de responsabilité, il n'y a même pas de débat, en fait, du point de vue d'un historien. C'est important de rappeler ce genre de choses-là. C'est important parce que, si tu veux, du coup, ça te met les choses en perspective, ça te fixe les tournants, ça te fixe les périodes. Donc, tu as des gens, si tu veux, qui sont dans une perspective effondriste, entre guillemets, et qui ne partagent pas les options de quelqu'un comme Servigne. Mais ce qu'il y a de plus vendeur, et ce qui se vend le mieux, c'est Servigne. Voilà, c'est Servigne. Parce que Servigne, effectivement, il dépolitise. Donc, en fait, il fâche personne. Il n'a pas d'ennemis, d'une certaine manière. Quelqu'un comme le j'ai même oublié son nom, notre ancien Premier ministre, là, Philippe, là, Édouard Philippe, et se disait préoccupé quotidiennement par l'effondrement. C'est pas un problème, si tu veux. Ben oui, et puis quoi, si ça mange pas de pain? C'est pas ouais, le souci. Donc, t'as ça. Et t'as, notamment, ça c'est un truc qui est assez constant, chez les versions Servigne, t'as une espèce de mise sous le boisseau des luttes historiques dans l'écologie radicale qui portent sur l'énergie nucléaire. Et pour moi, c'est jamais un détail. Parce que si tu veux, historiquement, les luttes contre le nucléaire, c'est pas rien, parce qu'en fait, quand tu parles nucléaire, tu parles État. Voilà. Tu peux pas parler, tu peux pas avoir d'analyse, si tu veux, de l'industrie nucléaire, de ces risques insensés, en fait, qui sont liés à l'énergie nucléaire et à l'industrie nucléaire, sans mettre en place des dispositifs d'État. Alors, évidemment, du coup, ça devient tout de suite exigeant, parce que ça veut dire que tu te cognes directement à l'appareil d'État. Ben, moi, j'y peux rien, c'est comme ça, en fait, si tu veux. Et en termes de perspective sur le temps long, on peut pas dire que, si tu veux, les déchets nucléaires, là, pour le coup, ça se pose là, tu vois. Et de plus en plus, c'est quelque chose que vous pouvez observer et qu'on peut observer dans les discours autour de la crise environnementale, on te focalise sur le pic pétrolier, l'effondrement l'épuisement des hydrocarbures, etc. Ou alors les ressources qui seront libérées par la fonte, permafrost, etc. Associés des discours qu'on entend là-dessus. Bon, mais tout ça, je veux dire, je veux bien. Hein, mais encore une fois, ça ne règle absolument rien, si tu veux, à cette espèce de bombe à retardement cosmique, tu vois, qui est dans le réseau des industries nucléaires au niveau mondial. Et pour le coup, là, tu as des responsables direct, tu as des gestionnaires directs, tu as des décisions directes. Ce sont les appareils d'État.
Qui ne sont jamais soumises d'ailleurs au vote.
Qui ne sont jamais soumises au vote, qui ne sont jamais sous aucun contrôle démocratique. Et cette espèce d'effacement, si tu veux, de la critique du nucléaire ou de l'énergie nucléaire ou de l'industrie nucléaire dans les revendications environnementalistes, radicales, hein, d'écologie politique radicale, je trouve qu'elle est symptomatique. Parce que c'est une espèce de manière d'invisibiliser, si tu veux, voilà, les responsabilités d'État, les partis politiques qui ont pris ces décisions-là, qui portent la responsabilité de ça. Et c'est aussi une manière, évidemment, de gommer la mémoire des militants et des analyses et des luttes politiques très concrètes qui ont eu lieu sur ces questions depuis près de 40 à 50 ans. Voilà. Et si tu... Alors ça, c'est un des avantages de la revue aussi, c'est de remettre en perspective la collapsologie sur le temps long, je dirais sur le temps militant. Hein. Et là, on a des militants américains, notamment David Watson, José Ardillo aussi, les deux premiers articles là sont très intéressants de ce point de vue-là, c'est qu'ils remettent effectivement l'approche catastrophiste ou effondriste à la Servigne, hein, dans une perspective qui est celle des critiques anti-nuc et anti-et environnementalistes radicales des années 70. On peut pas dire qu'on part de rien, si tu veux. D'ailleurs, c'est aussi une remarque intéressante, c'est Ardillo, je crois, qui dit ça, très bon article d'ailleurs, pour une écologie sans compte à rebours, il appelle ça. Sans compte à rebours, pourquoi? Parce que pour le coup, lui, il a le mérite de remettre en perspective l'idée même d'effondrement, si tu veux, sur les 50 dernières années. Et il dit des effondrements, c'est pas nouveau, on n'a pas attendu Servigne, on n'a pas attendu d'avoir le nom, si tu veux, pour parler d'effondrement. Si tu lis les textes des militants anti-nuc ou pacifistes des années 70, l'effondrement, il le voit pour la décennie qui vient. En fait, il dit c'est assez marrant quand tu croises effectivement les textes des années 60, la fin des années 60, des années 70. En gros, l'horizon ultime, pour la plupart des militants, c'est l'an 2000. Sur l'an 2000, vu les rythmes, vu les diagnostics posés par les organisations technocrates type Club de Rome et tout ça, en fait, les sociétés industrielles sont foutues et en gros, on leur donne 30 à 35 ans. Voilà. Bon, évidemment, si tu remets en perspective pour les gens qu'on connu l'an 2000, bah effectivement, non seulement ça s'est pas effondré, mais ça veut dire que cette espèce de résistance, d'adaptation, de résilience aussi, si tu veux, des sociétés au risque qui était effectivement déjà établi, hein, il y a près de 50 ans, bah, il faut la prendre en compte aussi, si tu veux.
Parce que t'as déjà des militants américains écologistes dans les années 50.
Bien sûr. Mais si tu veux, c'est cette espèce. Donc ça, c'est voilà, il faut aussi relativiser la litanie effondriste, si tu veux.
Alors là, de là, comment est-ce que tu évites de tomber dans une espèce de discours techno qui va qualifier tous les écologistes de millénaristes illuminés qui voient l'effondrement à leur porte alors qu'il ne se produit jamais?
Ben parce qu'en fait, si tu veux, le cœur des critiques anti-industrialistes ou anti-nucléaires ou de l'écologie politique des années 70, ce n'est pas uniquement la perspective de l'effondrement. C'est un des moteurs. Ça, je veux dire, je pense qu'il faut regarder les choses avec honnêteté là-dedans. Il y a une espèce de fascination un peu morbide qui est assez fréquente. Je dis pas que c'est
universel,
mais c'est assez répandu. C'est assez répandu, et pour voilà, c'est des milieux qu'on connaît, ou dans lesquels on évolue aussi. Cette fascination-là, elle est là. Mais sauf que si tu veux, le principal acquis de ces luttes et de ces luttes militantes là des années 70, c'est pas cette fascination morbide là. C'est en fait tout ce qui a été produit justement en termes de critique de l'appareil d'État, en termes de critique de l'industrialisme et de critique concrète, y compris sur ton lieu de travail, dans tes modes de consommation, dans l'idéologie de la croissance, dans l'espèce de verrouillage aussi de la quasi-totalité, si tu veux, des partis de gouvernement autour de cette perspective de la croissance. Enfin, ça, c'est des analyses qui ont été produites, qui ont été faites. Je ne dis pas qu'elles sont suffisantes, je ne dis pas que c'est indépassable. Mais si tu veux, c'est pas la perspective de l'effondrement ou du bug de l'an 2000, ou tu vois, du crash de l'an 2000, qui est le principal acquis de la crise de l'écologie politique de ces 50 dernières années. Donc, que cette espèce de projection morbide ait pu jouer un rôle, ait pu, tu vois, alimenter les fantasmes, mobiliser, etc., c'est pas impossible, hein, tu vois. Mais c'est pas nouveau, si tu veux, effectivement, dans toutes les formes de critique radicale, tu peux avoir une tendance, voilà, à dramatiser, je dirais, les enjeux, hein, je veux dire, socialisme ou barbarie, voilà, par exemple. Non, mais c'est des choses assez courantes, si tu veux. Et après, bon, la question est de savoir si, effectivement, Avec la collapsologie, j'ai l'impression que pour le coup, tu as une espèce d'inflation de ça, quoi. Voilà, t'as plus que ça quasiment, si tu veux. C'est effectivement le fantasme de l'effondrement qui te donne la clé. Hein. Et d'ailleurs, c'est comme ça que c'est présenté. Hein. C'est une pédagogie de la catastrophe. C'est-à-dire que tu pars de cette peur fondamentale de la catastrophe, et ce sentiment de peur, cette espèce d'incompréhension passe à un effondrement certain, est censé te convertir intérieurement et t'amener à faire de la science différemment, à consommer différemment, à vivre différemment. C'est vraiment un appel à la conversion.
Oui, c'est d'accord.
C'est un appel à la conversion. Et si tu veux, avec des ambiguïtés, là, je trouve que l'interview de Serving est intéressante parce que pour le coup, il est, alors là, c'est un chef-d'œuvre de jésuitisme, parce qu'il sait qu'il est en terrain miné, là, maintenant, ça va, il n'y a plus d'ambiguïté. Et alors, il continue à développer une espèce de discours très quasi simpliste, qui est censé, tu vois, s'appuyer sur du bon sens, le bon sens près de chez vous, les sentiments, des émotions, je ne suis pas dans l'idéologie, je ne suis pas dans le machin. Et en même temps, il y a des contradictions qui sautent aux yeux, si tu veux. Le type appelle à la collapsologie, c'est censé être une nouvelle discipline scientifique. Voilà, il passe son temps à taper sur la science. Oui. Il faut choisir, en fait. Soit effectivement tu fais, alors tu vois, alors évidemment avec cette ambiguïté, c'est la science, c'est le scientisme. Le machin, voilà, je suis pas anti-technicien, mais par contre je suis anti-technologie ou apologie de l'autonomie. Bon, bref, il y a des ambiguïtés en permanence, si tu veux, et au fond les ressorts sur lesquels il s'appuie, mais d'ailleurs il y a des textes où il le dit, là il le dit pas parce qu'il est en plein terrain rationaliste, militant, plutôt chevronné, plutôt aguerri, et qu'il l'attend avec le doigt sur la gâchette, donc il le dit pas, mais simplement, il ménage la possibilité, tu vois, voilà, on fait appel, les émotions, les sentiments, le rappel au vivant, ça a été oublié par la science, par la modernité, s'il faut faire des câlins aux arbres et parler aux lézards, c'est des choses qui sont, je caricature pas. Hein, je veux dire, c'est effectivement cette espèce de conversion doit t'amener effectivement à ressentir le monde, à ressentir ton existence de manière différente. Et en fait, au bout d'un moment, t'as envie de dire merde, quoi. Si tu veux, en fait, de quoi on parle? Est-ce que ça va changer quoi que ce soit, si tu veux, tu vois, aux décisions du conseil d'administration de Total, tu vois, à la mise en place d'un gazoduc, tu vois, à travers l'Ouzbékistan ou tu vois, ou à la fonte du permafrost. Je veux dire, il y a un moment donné, enfin, faut quand même assumer des responsabilités politiques, je dirais. Enfin, c'est pas mégalo de dire ça, mais si tu parles de ça, en fait, il sait ce qu'il fait d'une certaine manière, parce qu'il est, il a un passé, il a une formation militante, Servigne, il vient pas de nulle part, si tu veux. Hein. Alors, c'est d'ailleurs ce qui agace. Alors bon, on pourra en parler un petit peu à la fin. Il y a un article de Renaud Garcia là qui a coordonné en partie, traduit un certain nombre d'interviews et qui en fait est un peu agacé, c'est le moins qu'on puisse dire, par l'espèce de camouflage anarchiste, hein, sous lequel effectivement Servigne avance, voilà. Donc je vais peut-être en dire deux mots après, parce que c'est assez intéressant c'est un des points intéressants du numéro, en tout cas.
Bien du courage pour traverser les brouillards poudreux des mondes. Les mondes être siècles.
Bonsoir, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité.
Donc vous pourrez trouver tous les titres des morceaux sur le site Gurdulu, Jeudi Noir, Gurdulu, Gurdulu. Voilà, et là vous venez d'entendre Betty Cyclope, Autour d'un Monde, un morceau qui vient de Belgique et de 2011. Donc là on a un Jean-Mathias qui est on fire, littéralement. Donc là il nous a dit arrêtez d'être collapso ou je me brûle, voilà. Avec un briquet.
J'ai dit mangez de la viande dans votre 4x4, nom de Dieu.
Voilà, c'est ça, donc...
Et il est non, pour... Je plaisante, j'ai pas dit ça. Mais dis-le, moi, toi, que j'ai dit que j'ai dit.
Il l'a pas dit tout à fait, mais il était un peu contre les lézards. Et je crois qu'il n'aime pas beaucoup les arbres. Voilà, donc moi, je vais en parler à mon peuplier préféré ce soir en rentrant. Pour me plaindre. Voilà, donc on était en train de. Pour ceux qui nous rejoignent, les pauvres, on est en train de parler d'un numéro de réfraction qui s'intitule Avis de tempête, la fin des beaux jours, et qui est un numéro de critique au niveau politique, de certains présupposés, certaines conséquences du discours collapsologique tenu essentiellement par Pablo Servigne, par Stevens et quelques autres. Et donc, c'est assez intéressant parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend depuis le début de l'émission. C'est de savoir, est-ce que dans le numéro de réfraction, il n'y a pas un rapport à manque fait entre ce que raconte Naomi Klein de la théorie du choc et du sur quel point les leurs faits sur les crises. Sur
la stratégie du choc.
La stratégie, quand elle montre que les profiter de crises qui surviennent pour impulser des politiques dont ils rêvaient depuis longtemps, mais que une situation normale ne leur permettait pas finalement d'impulser. Alors là, nul complotisme là-dedans, c'est-à-dire que l'État ne produit pas le raz de marée, hein, mais il surfe dessus.
Non, mais alors, tu trouves ça? Moi, je trouve.
Je te demande, hein, c'est juste parce que tu vois, ça pourrait s'intégrer, quoi.
Ah, complètement, moi, je suis complètement d'accord avec ça. Mais si je trouve qu'une des réussites de ce numéro-là de réfraction, c'est qu'en fait, ils arrivent à tenir les deux bouts. C'est-à-dire qu'il y a ce que tu dis là, et en fait, je trouve de manière très convaincante, c'est-à-dire qu'ils t'expliquent comment la collapsologie peut être tout simplement utilisée, récupérée, et tout simplement même utilisée par, dans une logique de stratégie du choc, d'État. Hein, effectivement, c'est ce qu'un des auteurs appelle cette espèce d'appel à la révolution horizontale de la bureaucratie, ou de cybernétique du chaos, la formule que je reprenais tout à l'heure. C'est-à-dire, effectivement, comment ça peut être un ensemble d'outils au service de l'appareil d'État pour renforcer la coercition et le contrôle sur les populations, sans changer, en fait, si tu veux, la logique d'ensemble. C'est-à-dire, une croissance du point de vue économique, contrôle social sur la population en intérieur, hiérarchisation, et voilà. Un monde de flics, de puçage et de pollution, pour aller vite, où l'État, d'une certaine manière, va chercher à prolonger au maximum sa survie. Voilà. Et évidemment, le discours collapsologique, d'une certaine manière, peut être retourné, effectivement, par l'État en ce sens-là. Et il peut être retourné de manière assez habile, si tu veux, parce qu'effectivement, tu as une critique de la croissance, mais on peut aussi te réduire la croissance ou te camoufler la croissance, hein, en parlant de croissance verte, par exemple, et en te disant qu'effectivement, on a compris, en lisant les livres de Pablo Servigne, qu'effectivement, il fallait verdir le capitalisme, verdir la croissance, et en même temps limiter aussi limiter les mouvements sociaux intempestifs, parce qu'en fait c'est notre avenir à tous, à l'espèce qui est en jeu, hein, voilà. Donc tu peux avoir effectivement toutes ces formes de récupération et effectivement une utilisation de la collapsologie dans une logique de coercition d'État, et la revue explore ça de manière très convaincante et très précise, hein, en pointant justement, c'est ce qui se passe, si tu démobilises politiquement, si tu empêches effectivement de construire des collectifs réellement, si tu gommes les mémoires militantes, tu vois, des décennies précédentes, si tu crées des espèces de passerelles illusoires et confuses avec des radicaux survivalistes d'extrême droite, qu'est-ce que tu vas laisser? Tu laisses le terrain effectivement à ceux qui vont arriver en disant, mais attendez, moi je vous ai compris, en fait, ce qu'il faut c'est un État, qui déclenche une croissance verte et qui en même temps contrôle les oppositions en interne. Tu peux parfaitement aller vers quelque chose de cet ordre-là, c'est tout à fait cohérent. T'as ça effectivement dans la revue, mais l'autre aspect,
ouais, parce que c'est intéressant, exemple, ce que fait la Chine avec
qui prend des engagements là-dessus. La Chine est une dictature, liberticide, la pire de la planète ou une des pires de la planète, elle le fait effectivement, elle prend des engagements pour sauver l'espèce, de l'effondrement à venir. Donc t'as cet aspect-là effectivement, mais l'autre aspect, je trouve que ça c'est plus rare, c'est pour ça que je voulais parler aussi du papier de Garcia dans cette affaire-là, c'est que comme c'est fait effectivement d'un point de vue anarchiste, le boulot est bien fait, c'est-à-dire qu'en fait il y a aussi un certain nombre de rappels de perspectives, en fait pas de perspectives comme ça lointaines, mais un rappel de un certain nombre de clarifications politiques, je trouve, notamment autour de l'usage qui est fait de Kropotkin et de son fameux livre sur l'entraide, parce que, et c'est pas un détail, parce que si tu veux, ça effectivement ça fait partie du patrimoine des classiques anards, si tu veux, donc je rappelle le bouquin de Kropotkin, on a la fin du 19e, et en fait Kropotkin essaye de faire un livre contre le darwinisme social, c'est-à-dire certaines interprétations du darwinisme, et de la sélection naturelle, notamment Spencer, qui en fait tire, si vous voulez, de la sélection naturelle, de la théorie de l'évolution de Darwin, et notamment de la notion de sélection naturelle, qui tire de ça, je parle du darwinisme social, là, hein, l'idée d'une espèce de justification de la concurrence sociale, et si vous voulez aussi des hiérarchisations comme une espèce d'évolution naturelle des sociétés humaines, les meilleurs effectivement ayant vocation à diriger la société et à éliminer les plus faibles d'une certaine manière. Donc on justifie les inégalités, on justifie les rapports d'autorité, de pouvoir, en s'appuyant sur une espèce de vision complètement déformée de la biologie de Darwin et de l'évolution de l'espèce humaine. Donc le livre de Kropotkin, qui est intitulé L'entraide, c'est une espèce de machine de guerre contre le darwinisme social, pas contre Darwin, mais en fait ce que Kropotkin va essayer de montrer, c'est que dans l'observation des sociétés animales et des sociétés humaines, on trouve aussi des tas d'autres mécanismes que celui de la sélection naturelle, ou plus exactement, que dans la sélection naturelle, il faut aussi intégrer des mécanismes d'entraide. C'est-à-dire que ce qui fait par
ce qui garantit le succès d'une espèce,
exactement,
d'un individu,
ce qui garantit, c'est ses capacités à coopérer.
C'est ses capacités à coopérer. Voilà. Et d'ailleurs, le secrétaire de Darwin, Wallace, avait échangé des lettres avec Kropotkin, où il trouvait que justement le point de vue de Kropotkin était tout à fait pertinent.
Donc l'idée, c'est de montrer que effectivement, la théorie de l'évolution de Darwin n'est pas une apologie de la concurrence ou une apologie de la victoire entre individus. Hein. C'est effectivement un mécanisme de sélection anonyme biologique. Hein, donc qui n'a pas de finalité particulière, contrairement à ce que disent les darwinistes sociaux. Donc il n'a pas de finalité particulière, il justifie aucune organisation sociale en soi. En revanche, il a tendance à faire apparaître les vertus adaptatives et évolutives des mécanismes d'entraide. Ce qui est évidemment une manière tout à fait différente de voir les choses, parce que ça veut dire que tout ce qui tendra vers une régulation de la concurrence, ou une régulation de la lutte de tous contre tous, tout ce qui tendra à une régulation collective de cela, peut trouver des justifications dans la nature et dans la biologie des espèces, hein. Et donc il y a évidemment, d'après Kropotkin, bon, c'est un homme de son temps aussi, mais l'idée d'arriver à justifier effectivement des formes d'organisation sociale coopérative et non hiérarchique, hein, et anti-autoritaire, anarchiste pour dire les choses, qui serait du coup compatible, voire justifié avec ce qu'on connaît, hein, de l'organisation des sociétés animales ou des sociétés humaines. Donc ça, c'est Kropotkin. Et évidemment, Serving est un lecteur de Kropotkin, ça a été un éditeur de Kropotkin, je l'ai dit aussi. Et dans la collapsologie, il y a cette idée finalement que l'effondrement permettrait, souvent il a cette espèce d'horizon là derrière, permettrait finalement de remettre en selle des formes de communautés coopératives comme ça, et de retrouver finalement, c'est une catastrophe qui sauve, quoi. Hein, voilà, c'est la catastrophe qui sauve, c'est le remède dans le mal, voilà, et c'est si le grain ne meurt, et c'est la résurrection du Christ, voilà, et la résurrection des communautés coopératives. Bon, je caricature évidemment, mais il y a cette idée là. C'est ce qui permet à Serving de dire qu'il n'est pas dans la fascination morbide et qu'il n'est pas uniquement dans l'atomisation des gens sur des fantasmes, voilà, de catastrophes. Et en fait, Garcia fait les choses de manière très propre, je trouve, dans son papier là, en disant qu'en fait cette lecture là de Kropotkin, en fait, l'idée que après le déluge, effectivement, les communautés, les individus pourraient retrouver les vertus coopératives, cette lecture là, en fait, elle est complètement à rebours des intentions de Kropotkin, et que ce que justement elle élimine, c'est toute la dimension politique qu'il y a chez Kropotkin et qu'il y a dans le concept d'entraide chez Kropotkin. Hein, parce que Garcia rappelle que c'est pas une espèce de biologie abstraite ou de biologie individuelle ou de prise de conscience individuelle qu'on a chez Kropotkin. C'est pas un anarchiste individualiste, Kropotkin. Hein. Et en fait, lorsqu'il parle d'entraide, il parle de mécanismes collectifs et de comportements collectifs. Et ces comportements collectifs, les sociétés, ils existent, ils sont là parce que nous faisons partie de cette espèce-là. Et ils sont pas n'importe où. Hein. Ils sont en fait dans le prolétariat révolutionnaire et dans le mouvement ouvrier. C'est-à-dire que dans les comportements d'entraide, il y a aussi une résistance à l'atomisation. Il y a une résistance à l'atomisation, il y a une résistance à la hiérarchie, il y a une résistance au comportement autoritaire dans l'exploitation capitaliste et dans le rapport à l'État. Hein. C'est-à-dire que l'entraide de Kropotkin, elle est biologique, elle a en tout cas des fondements biologiques, mais c'est un concept politique. Il s'agit de s'entraider pour lutter contre l'exploitation d'État et contre l'exploitation capitaliste. C'est pas des grands mots, si vous voulez. C'est des cadres et des catégories très concrètes chez Kropotkin, notamment politiquement, parce que ça veut dire qu'on s'associe pas avec n'importe qui, qu'on s'associe pas sur n'importe quelle base, et qu'on n'est pas ami avec n'importe quel être humain.
Et qu'on n'attend pas la catastrophe pour s'organiser.
Et qu'on n'attend pas la catastrophe pour s'organiser. En fait, exactement.
Que, justement, on s'organise pour éviter la catastrophe.
Absolument.
C'est-à-dire qu'on peut prendre, on peut retourner complètement le truc de Serving.
Absolument.
Et
absolument.
Dire que justement, là, en fait, l'organisation doit se faire a priori pour éviter. Finalement, on pourrait dire la mise en péril biologique.
Exactement.
De l'espèce. Quoi.
Mais c'est ce que dit Garcia, et je pense que là-dessus, il a dit, moi je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est qu'en fait, il dit que dans l'entraide, en fait, c'est pas simplement des individus qui se retrouvent après la catastrophe et qui se recroisent et qui se disent, si tous les gars du monde. Hein. Dans l'entraide de Kropotkin, il y a une... il y a un impératif de révolte maintenant, d'une certaine manière. De révolte maintenant contre l'exploitation capitaliste et contre l'oppression d'État. Et c'est, encore une fois, ça fait slogan de dire les choses comme ça, mais enfin, ça engage un peu, si tu veux. Ça engage politiquement, des individus qui vont
ça
peut-être...
Ça pourrait s'organiser aujourd'hui contre la réintroduction des néocotinoïdes dans l'agriculture de la betterave, par exemple.
Voilà. Ou à toutes les formes, effectivement, de cadrage dans le monde du travail ou dans la vie sociale en général, qui tendent à séparer les gens, à les atomiser et à faciliter des relations de pouvoir ou d'oppression, à les monter les uns contre les autres sur des faux problèmes, etc. etc. Donc si tu veux, c'est nettement plus opérant d'un point de vue politique, ça change tout en fait. Ça change tout, et si tu veux, ça permet aussi de montrer... Il y a peut-être c'est la position de Garcia. Hein. La position de Garcia, c'est qu'en réalité, il y a un hold-up de Serving, y compris sur le patrimoine politique anarchiste. C'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement de défendre la boutique, mais c'est parce que derrière, voilà, lorsqu'on en arrive à dire que finalement, après la catastrophe, peut-être qu'on pourra aller discuter avec le gros balèze masculiniste qui a ses réserves de pétrole dans sa cave et qui a préparé sa base autonome de défense, et que lui, sur des bases survivalistes, tu vois, d'extrême droite, bah peut-être que finalement, comme on est naturellement conduit à s'entraider, bah peut-être qu'après la catastrophe, on pourra peut-être faire quelque chose ensemble. Bon, effectivement, quand on arrive à ça, c'est qu'effectivement, t'as peut-être un problème de lecture ou d'interprétation de Kropotkin, parce que si l'idée, c'est effectivement, allons faire des câlins aux arbres et puis aux fascistes surarmés du
je crois que c'était les lézards.
Ouais, c'est voilà. Mais si l'idée c'est ça,
en fait, lézards, hein.
Là pour le coup, on approche du néant politique, quoi. Voilà. Et alors bon, évidemment, ça peut paraître caricatural des choses comme ça, mais c'est à peine en fait. Effectivement, là peut-être que c'est un zoom particulier, parce qu'effectivement, ils sont allés chercher les différents contributeurs, ils ont un angle d'attaque, donc effectivement. Mais ils ne sont pas allés chercher nulle part leur citation, si tu veux. Hein. Donc voilà, je voulais terminer un petit peu là-dessus, parce que ça ne me paraît pas être simplement une question de détail. Et je trouve que la revue est très réussie de ce point de vue-là. Du point de vue des risques, si tu veux, de dépolitisation, de déshistoricisation et de récupération, du coup, qu'il y a derrière cette opération marketing là, de la collapsologie, hein. Et puis du point de vue y compris de pourquoi ça oblige aussi à repenser, si tu veux, et à reclarifier, hein, nos bases anarchistes, je dirais, une fois qu'on est provoqué à ça, hein, parce qu'effectivement là il y a quelque chose comme une espèce de hold-up, hein, sur des auteurs qui ont encore quelque chose à nous dire aujourd'hui. Et donc c'est effectivement ce travail-là, je trouve ça très salutaire qu'il soit fait, hein, dans ce numéro de la revue. Alors bon, voilà, il y a des articles de différents types d'intervenants. Voilà, un bon entretien avec Pierre Thiesset aussi, le fondateur du journal La Décroissance, là, qui remet des pendules à l'heure très éclairante aussi. Voilà, des militants américains, espagnols. Bon, il y a le droit de réponse de Serving, là, et bon, voilà, il a le mérite d'être là, hein, c'est pas un lynchage, c'est pas du lynchage du tout. Et donc c'est voilà, encore un bon numéro là, de Réfraction, d'après moi, là, printemps 2020, numéro 44, Avis de tempête, la fin des beaux jours, plein d'interrogation. Voilà, donc je recommande vivement aux éditeurs, ouais. Voilà, pour. C'est encore un bon numéro là, de la revue des copains de Réfraction.
Ok, donc ben voilà, c'était Jean-Mathias, Michel et puis José en régie pour le choix des morceaux. Donc vous pouvez retrouver cette émission ainsi que toutes nos autres émissions précédentes, enfin à l'exception de deux, sur Gurdulu, Archive, Jeudi Noir, vous tapez, vous trouvez. Et puis vous allez avoir maintenant droit à un morceau du meilleur groupe du monde, No Means No. The night nothing ever became. Je suis fatigué. The night nothing became everything. Donc c'est un morceau de 1991, donc c'est avant la date de 94, donc c'est bien. Et on se retrouve normalement dans deux semaines, à moins qu'il y ait les vacances, à moins qu'il y ait la Toussaint qui tombe là-dedans. Enfin, on verra. Bon, de toute façon, on se retrouve peut-être un jour, bientôt. Au revoir.